Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler cette semaine des classes de défense à l'école, donc des formations pour l'armée organisées dans l'école publique. En effet, l'armée fait son entrée à l'école pour soi-disant participer à l'éducation de nos jeunes avec ce qui est appelé officiellement les classes de défense. Alors, c'est un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées qui date de 2005 et qui va se décliner progressivement sur le territoire avec des conventions école par école ou collège dans les 1200 aujourd'hui, 1200 collèges et lycées de France. Alors, ce sont des partenariats qui font miroiter les moyens financiers que l'armée met à disposition. Alors, c'est quand même paradoxal. La belle affaire, quand nos finances publiques, c'est-à-dire nos impôts, sont comprimées, notamment pour l'école, pour tout ce qu'il y a de social, pour engrosser le budget de l'armée. Maintenant, on vient nous dire que l'armée fait du sponsoring en direction des écoles. Donc, c'est peut-être pas dans ce sens-là que ça devrait se passer. Il y a des sacrifices de réaliser. Je prends comme exemple celui du collège de Saint-Antonin-Nobleval, où on a supprimé la classe bilingue, qui était donc annulée. Et on nous présente une classe de défense, donc des compressions d'un côté et des extensions de l'autre, notamment pour mettre en valeur notre armée. Alors quand je dis notre, on va voir si elle est vraiment notre, cette armée-là. Alors on aurait pu espérer que l'éducation de nos jeunes aille vers les valeurs de la République. À l'armée, on n'a jamais enseigné les valeurs de la République. On enseigne à l'école les valeurs des droits de l'homme, les valeurs d'humanité, la paix, mais non, c'est le contraire, avec des militaires à qui on va confier d'enseigner à nos jeunes les valeurs de l'armée, je cite, de la défense, l'honneur et l'obéissance. En réalité, l'armée française a toujours défendu le colonialisme au détriment des peuples dans toute notre histoire, les intérêts des grands capitalistes et a toujours servi à mater tous les mouvements émancipatifs, revendicatifs et populaires. Ça, c'est ce que toute notre histoire de France peut démontrer aisément. Les vraies valeurs de l'armée, ceux qui ne sont pas présentés comme telles, armée qui se dit aussi la grande muette, c'est tout dire, c'est l'application de la loi du silence et aussi la désinformation. On cherchera vainement le développement de l'esprit autocritique de l'école qui devra être enseigné à nos jeunes avec l'armée. En fait, c'est tout le contraire. C'est l'obéissance absolue sans chercher à comprendre. Alors, j'ai fait quelques recherches. Depuis 1945, je n'ai pas été avant, bien que déjà en 1945, pour ce qui est de l'armée, on peut dire que ce qui était intéressant, c'est-à-dire de résister, ça a été une valeur extrêmement peu partagée dans l'armée. Les résistants qui étaient des militaires sont extrêmement peu nombreux, donc on connaît l'histoire, l'immense majorité de l'armée s'est ralliée à Pétain et c'est pas l'armée qui a fait la résistance à quelques exceptions près. Je voulais citer le 8 mai 1945, puisque tout le monde sait que c'est la fin de la guerre. Ce jour-là, l'armée française va bombarder 3 villes algériennes, dont la ville de Sétif, où la population algérienne manifeste pour la fin de la guerre, mais manifeste aussi pour réclamer son indépendance, l'indépendance de l'Algérie. Eh bien, c'est l'armée française, le 8 mai 1945, qui va bombarder avec l'aviation la population civile, il y aura, selon les estimations, entre 5 000 et 30 000 morts civils. Donc les valeurs de l'armée, j'en cite une, celle-là, elle est assez peu connue, c'est pour ça que je l'ai retenue. C'est quand même inquiétant quand on nous parle de valeurs de l'armée. Il y a eu le conflit du Vietnam qui commence juste après donc ce 8 mai 1945. Et chose peu connue aussi, c'est que les résistants qui s'étaient engagés dans l'armée au moment de la libération de la France, eh bien, ils sont engagés dans l'armée et on ne leur demande pas leur avis. Ils partent dans ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine pour participer donc à maintenir la domination coloniale. Donc on a eu des résistants français engagés de bonne foi dans l'armée dans les années 44, début 45, et ils se retrouvent à mater la population indochinoise qui réclame sa libération. Donc ça, est-ce que c'est les valeurs de l'armée ? Sans doute, mais ce n'est pas celle qu'on nous présente aujourd'hui. On peut dire que les luttes pour l'indépendance sont systématiquement réprimées dans le sang et par l'armée. Parmi celles-ci, une autre qui est assez peu connue, celle de l'indépendance de Madagascar en 1947, où 95 prisonniers par l'armée, donc ils sont prisonniers, ils sont débarqués d'un convoi et tous assassinés à la mitrailleuse. En tout, ce conflit de Madagascar, dont on parle peu, fera 89 000 morts, donc des assassinats massifs par l'armée française. C'est pour ça que je le cite aujourd'hui. Et puis arrive un peu après l'indépendance de l'Algérie qui est réclamée, dont l'une des caractéristiques est la généralisation de la torture par l'armée française. Donc ça aussi, il faut le dire ou le redire. Plus proche de nous, la Nouvelle-Calédonie, où l'armée achèvera les blessés lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa, pour ceux qui s'en rappellent, donc un mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie qui enlève des gendarmes et qui les guerre, si l'on peut dire, dans la grotte d'Ouvéa, enfin qui les cache dans la grotte d'Ouvéa, l'armée donne l'assaut et elle achèvera les blessés. Donc c'est assez récent cette affaire-là. Donc quelque chose aussi à mettre au compte, je mets des guillemets, sur les valeurs de l'armée. Et puis aussi la France-Afrique, où il y aurait beaucoup à dire, et je ne citerai que le génocide du Rwanda en 1994, un génocide énorme, puisqu'il a fait 800 000 morts, où les forces militaires françaises qui sont présentes sur le Rwanda à cette époque, avec un certain capitaine Baril, dénommé à l'époque le gendarme de Mitterrand, qui vont jouer un rôle particulièrement trouble, au moment du déclenchement du génocide. Voilà un petit peu, et j'ai pas fini, quelques pages de notre histoire pour émailler ce que sont véritablement les valeurs de l'armée. Avant d'aller plus loin, une chanson de circonstance, un peu par provocation de ma part, et ce qu'on va appeler aussi nos jeunes à chanter cette chanson, tiens, voilà du boudin.
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Sans petit courrier, nous sommes des lascars des tifas. Oh,
Je reviens sur ces valeurs de l'armée que j'ai déjà cité quelques exemples. J'en citerai un autre qui n'est pas très vieux. Est-ce que défendre la France, c'est envoyer des nageurs de combat miner le bateau de Greenpeace qui se situe en Nouvelle-Zélande, qui va donc exploser puisqu'il va être miné par ces nageurs de combat, ce qui va causer la mort d'un jeune militant de Greenpeace qui est à bord et on est en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est aussi à mettre au compte des valeurs de l'armée, plutôt de la réalité de son utilisation. Et pour ce qui est de la population française à proprement parler, l'armée a toujours été du côté du Manche, il faut aussi le rappeler. En 1968, il y a une mobilisation ouvrière énorme qui donnera de grandes conquêtes sociales, notamment l'augmentation du SMIC de plus 30% à l'époque, donc c'est pas rien. Et qu'est-ce que fait De Gaulle ? Eh bien, De Gaulle, il va rencontrer le général Massue pour tenter de voir si on peut ou pas organiser un coup d'État. Donc ça aussi, c'est les valeurs de l'armée. Ça, c'est pas fait, mais ça a bien failli se faire. Et plus près de nous, lors du mouvement de lutte contre le barrage de Sivens, qui s'est avéré d'ailleurs depuis être une erreur, tout le monde dit maintenant que ce barrage de Sivens ne correspondait à rien. Pour autant, on envoie les gendarmes dans le Tarn à l'encontre des militants écologistes et le militant écologiste et pacifiste Rémi Fraisse meurt par une grenade militaire lancée par un gendarme. Qu'est-ce que cette grenade faisait pour s'opposer à des militants écologistes et pacifistes? Voilà, la troupe contre les manifestants, il y aurait des dizaines d'autres exemples, c'est un classique qui émaille notre histoire. Et un mot aussi sur la désinformation, puisque c'est aussi beaucoup ça, l'armée, la désinformation, les services de propagande des armées qui sont particulièrement doués dans le domaine, je dirais que c'est leur cœur de métier, la désinformation. Je voudrais citer un exemple parmi tant d'autres, lors de la crise du Covid-19, où on envoie à grand renfort de médias un porte-hélicoptère aux Antilles pour aider la population locale, car ce porte-hélicoptère a en son sein un hôpital embarqué. Donc on nous vend en quelque sorte les images à la télé, alors qu'en réalité ce porte-hélicoptère fera des ronds dans l'eau et on n'embarquera jamais de malades sur cet hôpital militaire qui est à l'intérieur donc de ce porte-hélicoptère. Donc un exemple parmi tant d'autres, on nous a fait le coup aussi du porte-hélicoptère avec donc son hôpital militaire embarqué qui est parti au large de la bande de Gaza pendant le génocide, qui n'a strictement pas embarqué une seule victime de ce génocide durant ce conflit qui n'est d'ailleurs pas terminé. Voilà pour ce qui est de la loi du silence et de l'obéissance absolue. On peut citer aussi l'incendie de la Paillotte chez Francis en Corse, pour ceux qui s'en souviennent. Donc le préfet envoie les gendarmes la nuit pour mettre le feu à cette Paillotte. Donc c'est les gendarmes, c'est l'armée qui fait ça. Et d'ailleurs, on l'aurait jamais su si un des gendarmes incendiaires ne s'était pas brûlé pendant l'opération. Donc ces manœuvres grises sont aussi le fait de l'armée. Alors bien sûr, cette liste est incomplète. Je voulais simplement illustrer qu'on va à l'inverse de l'émancipation de nos jeunes, d'une ouverture au monde qui ne désignerait par opposition que des adversaires. Donc c'est le contraire de l'ouverture au monde et de l'émancipation. Alors cette convention qui lie donc chaque école et l'armée prévoit que l'armée se donne le droit d'enquêter sur les parents, vous avez bien entendu, d'enquêter sur les parents et de refuser un élève dans la classe de défense si un parent est suspect de ne pas être dans, finalement dans le droit fil que souhaiterait l'armée. Donc les enfants, via la sélection des parents, sont sélectionnés pour rentrer dans cette classe de défense. C'est tout le contraire de l'école de la République. L'école de la République est ouverte à tous. C'est un des grands principes de l'école de la République. Et là, il y a une clause qui prévoit que l'armée peut se permettre d'interdire donc aux enfants, mais en fait, c'est les parents qui vont être sélectionnés, et les enfants, par voie de conséquence, de participer à ces classes de défense. Alors, pour terminer, il faut noter que les syndicats d'enseignants s'opposent à ce genre d'orientation, donc c'est tout de même intéressant de le dire, de même que la plupart des parents d'élèves, mais ça passe en force. Alors, pour terminer vraiment cette fois-ci, je paraphraserai une citation de Clémenceau qui disait que la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Et je dirais pour ma part que l'éducation militaire est à l'éducation ce que la musique militaire est à la musique. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh,
c'est
pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.